Vous écoutez France Culture.
Réseau, nouveaux médias, numérique et nouvelles technologies, c'est Place de la Toile, une émission proposée par Thomas Baumgartner et Caroline Brouet. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline et bonjour à tous.
Au sommaire de Place de la Toile, ce matin à midi moins 5, c'est Milad Douéhi qui viendra faire sa chronique. Milad qui sera avec nous tout le mois de février et qui nous parlera ce matin de la création d'une nouvelle université américaine, l'université Singularité. Avant lui, nous recevrons Philippe Aigrin qui dirige une société spécialisée dans les outils libres pour le débat public sur Internet. Et Philippe Aigrin qui publie une contribution très intéressante au débat sur les droits d'auteur dans un livre intitulé « Internet et création, comment reconnaître les échanges sur Internet en finançant la création ». Et pour les 40 minutes qui suivent, Thomas, il va être question de la place d'Internet en Iran. Comme vous le savez, à l'occasion des 30 ans de la révolution iranienne, France Culture consacre quelques-unes de ses émissions de la journée à l'Iran. L'Iran où près d'un Iranien sur trois utilise Internet et où on compte environ 700 000 blogs. Un pays donc où Internet apparaît pour beaucoup comme un espace de liberté et un laboratoire démocratique, au point que certains disent que la deuxième révolution aura lieu grâce au réseau.
Oui, l'Iran, vous le dites, Caroline, est une société connectée. Le bloguistan, comme certains appellent parfois la blogosphère iranienne, est en ébullition depuis au moins 8 ans. Pourquoi 8 ans? Parce qu'en 2001, le persan a pu devenir une langue d'échange sur le réseau, sur Internet. Et aujourd'hui, le persan fait partie des 10 langues les plus utilisées sur le réseau. L'Iran est une société connectée et le pouvoir iranien l'est aussi. L'exécutif iranien s'est aussi saisi du réseau pour s'y exprimer. Mahmoud Ahmadinejad a son blog depuis 2006, mais aussi pour tenter de le maîtriser, un pouvoir autoritaire face à l'expression multiple d'une partie de la population. Ce sera le sens de notre conversation ce matin, une conversation à laquelle vous, auditeurs, vous pouvez réagir, vous pouvez commenter, questionner cette émission en direct par Twitter. On reprendra les commentaires des uns et des autres envoyés par Twitter au fil de l'émission. Tout est expliqué sur le site de Place de la Toile, sur franceculture.com. Des questions qui pourront s'adresser à nos trois invités, Caroline.
Nos trois invités, Kaveh Salamatian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie, professeur à l'université de Lancaster en informatique et télécommunication, et vous travaillez plus précisément sur la mesure dans l'Internet. On aura l'occasion de préciser de quoi il retourne. À vos côtés, Hamdam Mostafavi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste iranienne, responsable du blog des blogs, c'est une rubrique sur le site du Courrier International. Karim Naidji, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes président de la Ligue iranienne de défense des droits de l'homme et vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme.
Alors pour commencer cette conversation, on vient d'évoquer la connexion en Iran, la haute connexion des Iraniens. Est-ce qu'on peut la mesurer? On a eu un peu de mal, pour tout vous dire, à trouver des chiffres. Évidemment, ça bouge beaucoup. Alors justement, Kaveh Salamatian, sur cette question de la pénétration du réseau en Iran, est-ce qu'on peut le chiffrer aujourd'hui?
Alors le chiffrage est assez difficile, pas seulement en Iran, mais globalement partout. Chiffrer le nombre d'utilisateurs du réseau est quelque chose, est une tâche ardue, comme d'ailleurs mesurer globalement la taille d'un réseau. Mais ce qu'on sait aujourd'hui au niveau de l'Iran, il y a deux types de statistiques. Il y a d'une part des statistiques qui sont, je dirais, internes, qui sont des statistiques qui sont données par l'organisme statistique iranien, qui donne un certain nombre de chiffres.
Fiables ? Est-ce que ces chiffres sont fiables ?
Ils sont plus ou moins fiables. Ils sont, je dirais, parfois sous-estimés. Et vous avez aussi des informations qui viennent d'autres sources externes, parce que quand on est sur le réseau, le trafic qui est généré en Iran est vu aussi à l'extérieur. Et ces sources-là nous donnent des informations aussi plus ou moins fiables, avec aujourd'hui une estimation pour 2008, qui est de l'ordre de 20-21 millions d'Iraniens qui utilisent l'Internet ou qui ont été confrontés à l'Internet.
Il faut rappeler que les Iraniens sont 68 millions aujourd'hui. Donc on est près, comme je le disais, d'un Iranien sur trois qui est utilisateur quotidien ou épisodique, d'une certaine façon, Kaveh Salamatian.
ces chiffres-là sont raisonnables. Je dirais que l'utilisation d'Internet est devenue très fréquente jusqu'au point où aujourd'hui toute une série de démarches administratives doivent obligatoirement être faites par l'Internet. L'inscription à l'université, au concours d'entrée et autres est obligatoirement faite à l'Internet, ce qui veut dire qu'il est disponible partout.
Si on tente, Hamdan Mostafavi, de dresser le portrait d'une certaine façon d'Internet en Iran, d'essayer de tourner autour de ce qu'on peut lire sur Internet en Iran, à quoi a-t-on affaire ? A-t-on affaire à des sites ? A-t-on affaire à des blogs ? Et sur les blogs, que peut-on lire ?
Alors, on a affaire à la fois à des journaux, donc les journaux quotidiens qu'on peut lire en papier sont aussi disponibles sur Internet, la grande majorité. On peut lire aussi beaucoup de webzines, de journaux faits soit par des journalistes, pas nécessairement dissidents, mais avec peu de moyens, ou qui préfèrent ce moyen-là, qui n'ont pas les moyens de faire un journal quotidien imprimé. Et énormément de blogs. Alors, les blogueurs, on a de tout, hein, c'est très varié. On a à la fois des blogueurs, on peut dire des blogueurs politiques, mais finalement, ce n'est pas la grande majorité, les blogueurs qui vont parler réellement de politique, qui vont s'engager. Il y en a, et c'est ceux dont on entend parler le plus, parce que c'est ceux qui sont arrêtés, emprisonnés, etc. Il y a énormément, le régime a lancé une grande offensive de blogueurs, entre guillemets, religieux, conservateurs, qui envahissent la toile de leur point de vue conservateur.
Une sorte de contre-feu, en
voilà,
fait,
c'est ça.
Du point de vue de
religieux. C'est-à-dire qu'ils ont mis un certain temps à se rendre compte de l'importance que prenaient les blogs, de 3 ans, et à partir de là, bon, on a vu le blog que Mahmoud Ahmadinejad a lancé. Il y a aussi des religieux de la tendance réformatrice, comme Mohamed Ali Abtaï, qui est le plus connu, qui fait son blog. Et sinon, on a énormément de blogs qui parlent aussi de poésie, de littérature, de cinéma, de sexe, de relations humaines, ça c'est la dernière catégorie de blog.
Donc il y a une grammaire du blog iranien qui est finalement assez proche de celle des blogueurs en général.
Oui.
Sauf que évidemment s'exprimer comme ça quand on est en Iran, alors on pourra parler de ceux qui sont à l'extérieur évidemment, ça a finalement aussi une portée politique.
Oui forcément, c'est-à-dire que ce qu'on voit beaucoup chez les blogs, surtout des jeunes gens, c'est l'envie d'accéder à la normalité par ces blogs, de parler de choses dont ils peuvent pas parler au quotidien, de parler... J'ai lu souvent la phrase qui disait « Oh mon Dieu, mon blog prend un tour trop politique, je voudrais seulement parler de cinéma, de poésie, de littérature, et vivre et être en contact avec les autres. » Ou ces filles qui témoignent, qui disent « Oh, comme j'aimerais pouvoir me débarrasser de ce voile », enfin des choses qu'on a envie d'entendre, mais qui sont forcément politiques, même si c'est juste la vie personnelle. Si c'est sa vie personnelle qu'on raconte, on est forcément un peu politique.
Vous parlez des femmes, Madame Mostafavi. Vous parlez des femmes. Les femmes sont-elles des blogueuses particulièrement actives ?
Oui, il y a pas mal de blogs écrits par des jeunes femmes, surtout. J'ai surtout vu des jeunes femmes raconter un peu... Elles ne parlent pas nécessairement de leurs conditions, ça peut être aussi juste pour raconter les difficultés. Une enseignante, par exemple, qui racontait comment c'était difficile son métier, mais parce que le métier d'enseignant est difficile en Iran. Donc, ce n'est pas toujours forcément pour dénoncer le régime, c'est juste pour raconter sa vie aussi, comme peuvent le faire ici les femmes.
On peut dire que 2001 a été un moment, un tournant, puisque le persan a pu devenir une langue, enfin j'imagine c'était graphiquement, on a pu l'écrire, ça a pu être une langue sur le réseau. Ça a été un tournant, véritablement, ça a été cet appel d'air.
Oui, je pense vraiment, enfin, je connais pas bien après les caractéristiques technique, mais je sais que c'était pas possible avant que Oder, donc le père du blogging iranien, fasse Hossein Derakhshan, fasse le code vraiment réellement pour faire un blog en persan. Et il y a eu, on peut lire souvent les blogueurs qui ont commencé en 2003-2004 dire c'est grâce à Oder, merci Oder, parce que c'est grâce à toi que j'ai commencé à bloguer. Et il y a eu, oui, un boom en fait dans les années 2002, 2003, 2004, et ça s'est maintenu encore aujourd'hui.
Kaveh Salamatian, est-ce que n'importe qui peut ouvrir un blog en Iran ? Est-ce que c'est facile d'ouvrir un blog ? Est-ce que c'est contrôlé ?
Ouvrir un blog, c'est toujours possible. D'ailleurs, on arrive à le faire parce que l'Internet est délocalisé, donc les serveurs de l'Internet sont partout. Bon, il y a une tendance pour les gens à utiliser des sites de blog plus particuliers qui ont été personnalisés à la base. Donc, il y aura une tendance à faire ça. Mais il n'y a pas de contrôle particulier à l'ouverture d'un blog.
Le contrôle vient dans un deuxième temps, d'une certaine façon. Parce qu'en 2006, par exemple, le pouvoir a limité le débit autorisé à 128 kilooctets par seconde. C'est-à-dire que c'est une vitesse qui réduit la possibilité de mettre en ligne des vidéos, des éléments sonores, mais qui n'empêche pas de tenir son blog. Cela dit, il y a quand même un contrôle exercé.
Effectivement, il y a une limitation de débit. Bon, cette limitation de débit n'est pas très efficace pour les blogs qui n'ont pas besoin de débit très important. C'est surtout pour rendre l'accès, je dirais, à Internet plus difficile et faire pression sur la patience des gens, en quelque sorte. Mais grosso modo, y a une expression, on dit en Iran, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit la liberté ensuite. Donc, ouvrir un blog, dire ce qu'on veut, on peut le faire, mais après, bien sûr, peut y avoir des contre-coups.
Hier, dans l'émission de Madeleine Moukamabanou, il était aussi question d'Iran, de l'Iran et de la nature du régime politique. Un des invités qui était présent sur le plateau disait que, d'une certaine façon, le pouvoir n'avait pas les moyens de contrôler les communications et qu'il donnait l'exemple des quelques 20 à 30 millions de SMS qui circulent entre 22h et 3h du matin. Comment expliquer qu'entre 22h et 3h du matin, à ce moment-là, il y a une circulation presque libre et que le reste du temps, d'une certaine façon, ce soit beaucoup plus tenu qu'avait Salamatian.
Alors, grosso modo, contrôler le réseau, c'est quelque chose de très difficile. Le pays qui a le plus de contrôle du réseau aujourd'hui, c'est les Chinois. Et on voit l'infrastructure que les Chinois ont mis en place est colossale. Les Iraniens aussi ont mis en place une infrastructure. C'est pas seulement d'ailleurs les Iraniens qui ont mis une infrastructure. Beaucoup de pays du Moyen-Orient ont mis en place ce genre d'infrastructure de filtrage. Mais Internet, à la base, a été conçu pour être un système très difficile à bloquer. Et donc, les gens trouvent toujours les passerelles pour réussir à passer outre. Donc, plus on met d'argent sur le filtrage, moins on a de résultats.
Paradoxalement.
Kaveh Salamatian, une question nous est arrivée donc par Twitter, puisque des internautes aujourd'hui, on essaie cette petite opération exceptionnelle que les auditeurs peuvent nous envoyer des messages donc par Twitter. Et Pierre H. de Paris nous pose cette question. La Chine, spécialiste mondiale du contrôle d'Internet, exporte-t-elle son savoir-faire et sa technologie de filtrage en Iran? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que c'est possible?
À ma connaissance, aujourd'hui, les Chinois ne produisent pas de produits commerciaux de filtrage. Il y a des compagnies chinoises qui commencent à être très actives dans le domaine de la production de routeurs, mais je n'ai pas connaissance de filtrage, de technologie vendue. Il faut bien prendre en compte que la technologie chinoise est fortement basée sur des ressources humaines. C'est-à-dire, c'est un pays avec plus d'un milliard d'habitants. Donc, si vous prenez 1% de la population pour surveiller, ça fait 1 million de personnes. Donc, voilà.
On peut revenir sur un personnage et peut-être élargir justement au cas de certains blogueurs. Justement, à l'instant, Amdam Mostafavi, vous parliez de Oder, justement. Alors, Oder, qui a été donc le premier blogueur, il avait un blog qui s'appelait Editor2.myself. Oui. Il était au Canada, à Toronto, et c'est lui donc qui a permis l'expression persane sur le réseau. Où est-il aujourd'hui? Que devient-il?
Alors aujourd'hui, il a été arrêté le 18 novembre, si je me souviens bien, par les autorités iraniennes, parce qu'il était il est rentré en Iran. Il était déjà rentré en Iran, cette fois-ci, il a été arrêté. Et on n'a pas eu de nouvelles pendant un mois. Là, les autorités ont confirmé qu'elles le détenaient, mais je crois qu'il n'a pas été condamné encore.
Karim Naidji ?
Non.
Il n'a pas été condamné ?
Non, on n'a pas de nouvelles non plus, hein.
Par contre, il y a eu des condamnations de blogueurs récentes.
Oui, justement, il y a 4 condamnations qui viennent tomber hier à l'égard de 4 anciens journalistes transformés en blogueurs en 2003-2004 qui ont été condamnés des peines assez lourdes, de 2 ans à 3 ans de prison, assortis de coups de fouet. Heureusement, les 4, après leur mis en liberté à la suite, en fait, malheureusement, des détentions assorties, des maltraitements, de la torture, pour passer à la télé, ils sont sortis. Actuellement, ils sont, à ma connaissance, ou aux États-Unis ou dans divers pays européens, en tant que peut-être résidents ou réfugiés. Mais quand même, s'ils rentrent en Iran aujourd'hui...
Ils effectueront leur peine.
Voilà.
Karim Haïdji, vous qui êtes président de la Ligue iranienne de défense des droits de l'homme, vous suivez bien toutes ces histoires de condamnation des blogueurs. Est-ce que les condamnations sont motivées ?
Motivées dans quel sens ?
Est-ce qu'on dit, voilà, vous êtes condamné à 3 ans de prison et je ne sais combien de coups de fouet pour telle raison ? Ou est-ce qu'on dit parce que, simplement parce que vous tenez un blog ?
Vous savez, il y a une terminologie juridique qui est utilisée toujours à l'égard de tout le monde en Iran. C'est activité ou propagande contre la sûreté ou de la sécurité de l'État. Une expression très, très vague qui ouvre à l'arbitraire. Et pourquoi ouvre à l'arbitraire ? Parce qu'il faut connaître d'abord la nature juridique de la République islamique d'Iran. Cette république, en fait, c'est une oligarchie cléricale. Pourquoi une oligarchie cléricale ? Parce que, outre les trois pouvoirs classiques, judiciaires, législatifs et exécutifs, il y a la suprématie du guide suprême dans la Constitution elle-même. Ça veut dire que c'est un religieux qui contrôle. D'abord, il est chef de l'État. Le président élu par suffrage universel est plutôt chef du gouvernement, au sens de la Ve République française. Le chef de l'État, le chef de l'exécutif, c'est le guide suprême qui n'est pas élu. Parce qu'il contrôle justement la radio-télévision, parce qu'il n'y a pas de radio-télévision privée en Iran. Il nomme... le chef de la radio-télévision, d'abord. Il est chef des armées. C'est lui qui nomme 6 religieux pour contrôler l'ensemble des lois votées par le Parlement. Sur quoi ? Sur leur conformité avec des règles de la charia. Ça veut dire qu'il y a 6 mollahs qui sont nommés par le guide suprême qui ont droit de veto sur l'ensemble des lois votées par le Parlement. D'autre part, comment il contrôle le pouvoir judiciaire ? C'est lui qui nomme le chef de pouvoir judiciaire. Et par conséquent, le pouvoir judiciaire, non seulement il n'est pas indépendant, il est entre les mains du guide suprême. C'est là-dessus qu'en fait, qu'il organise leur politique pénale à l'encontre de tout le monde. Et c'est là-dessus que, malheureusement, ils ont tout le pouvoir pour que cette justice soit une justice politique entre les mains du pouvoir exécutif.
On disait que, d'une certaine façon, les blogs avaient pris naissance en 2001 avec Oder, donc il y a 8 ans maintenant. Est-ce que, Karim Haïdji, on assiste à une aggravation de la répression depuis quelques années, du fait même de l'ampleur que prend la place d'Internet en Iran ?
Tout à fait, parce que depuis l'arrivée au pouvoir de nouveau président qui a remplacé un président un peu plus ouvert, un peu plus, je dirais, libéral, Mohammad Khatami. Malheureusement, cette politique de répression a beaucoup, beaucoup augmenté. Je vous donne par exemple un exemple. À la suite d'une nouvelle élection législative à l'époque de Khatami, le Parlement voulait examiner un projet de loi sur la presse. Le jour de l'ouverture de ce Parlement, le guide suprême a saisi le président du Parlement en lui demandant de rejeter ce projet de loi avant que le Parlement commence son travail. C'est là comment, en fait, d'une manière arbitraire et extra-constitutionnelle, ce guide suprême intervient à tout le moment. C'est par rapport à cette, en fait, place qu'on lui donne cette constitution et cette voie de fait qu'en fait, à tout le moment, on peut encore aggraver davantage la situation par rapport aux aux droits et libertés fondamentaux.
Il y a même un projet de loi qui est encore à l'état de projet en juillet 2008 qui vise à définir comme un crime la création de blogs qui font la promotion, je cite, de la corruption, de la pornographie et de l'apostasie, et les auteurs sont donc passibles de peine de mort.
Oui, pourquoi ? Parce que dans la religion musulmane et dans la République islamique d'Iran, il n'y a pas droit à la conversion négative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un non-musulman peut se convertir à l'islam, mais à aucun moment un musulman. Ça veut dire celui dont le père était musulman. Il est né musulman, à aucun moment il ne peut se convertir à une autre religion. S'il le fait, il est passible de la peine de mort. Par conséquent, la propagande pour la conversion aussi est considérée comme un crime qui à ce moment-là, malheureusement, ouvre encore à la peine de mort et à l'arbitraire.
Mais Karim Laïdji, est-ce que justement c'est ce qu'on reproche potentiellement dans ce projet de loi au blog, est-ce qu'on le retrouve dans les blogs ou est-ce que ça traduit simplement la crainte d'un pouvoir autoritaire par rapport à une expression potentiellement, même plus que potentiellement, on l'a compris, il existe ces blogs, une expression libre ?
Oui, mais tout est possible, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas l'état de droit, malheureusement, on est susceptible d'être contrôlé, pas contrôlé, arrêté, condamné, pas condamné, parce qu'il n'y a aucune sorte de garantie.
Madame Mostafavi, par rapport à justement cette situation constitutionnelle que vient de décrire Karim Laïdji, on lit, on comprend mieux ce que vous disiez tout à l'heure. C'était par exemple cette présence très féminine au sein des blogs, ce qu'on s'y exprime. Est-ce que c'est simplement, est-ce que c'est une réponse, simplement, c'est peut-être pas le mot, mais est-ce que c'est une réponse aussi à cette chape constitutionnelle et très patriarcale en particulier ?
Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autres moyens d'expression, vraiment. Donc, c'est par là que passe l'expression des femmes. Et pour revenir sur le sujet de l'aggravation des sanctions, ce que je pense aussi, c'est que les autorités veulent faire des exemples. En fait, c'est pourquoi on arrête Oder maintenant ? Pourquoi l'un des journalistes qui a été condamné, c'est aussi Omid Memarian, qui est un grand journaliste iranien très, très, très connu, un ancien journaliste réformateur qui travaillait en Iran. On fait des exemples parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Ils ne peuvent pas aller dans chaque foyer, se mettre derrière chaque blogueuse ou blogueur, voir ce qu'ils écrivent. Donc on prend des figures charismatiques, emblématiques du mouvement du blogging pour dire attention, voilà, les peines sont de plus en plus élevées. S'il y a ce projet de loi dont vous parliez tout à l'heure s'inscrit dans le même cadre. Et en plus, on met derrière ça des connotations religieuses les crimes les plus graves du régime, donc, qui est de s'opposer à la religion.
Madame Mostafavi, vous qui êtes journaliste et qui vous occupez de cette rubrique le blog des blogs sur le courrier international, le blog des blogs, c'est tout simplement un tour du monde de la blogosphère, donc vous recevez et vous allez voir des blogs notamment iraniens, mais aussi du monde entier. Est-ce qu'il y a une différence dans ce qu'on peut lire sur les blogs entre les blogs venus d'Iran et les blogs issus de la diaspora iranienne ? Est-ce qu'il y a une expression différente, une liberté d'expression différente ?
Oui, alors les blogs issus de la diaspora iranienne, alors il y en a énormément, c'est aussi ça qui est intéressant, mais ils sont beaucoup plus politiques, eux, que les blogs faits en Iran.
Vous pouvez s'en douter.
Oui. Bon, pourquoi ? Parce que déjà, les gens qui les écrivent, ce sont généralement des anciens journalistes iraniens ou des intellectuels qui sont en exil, donc... et qui veulent faire entendre leur voix en Iran et dans le reste du monde, mais aussi communiquer avec les Iraniens. C'est un moyen de les influencer. D'ailleurs, la blogosphère en Iran a été aussi pas mal influencée par la blogosphère hors d'Iran, par les journalistes justement qui ont commencé à écrire hors d'Iran.
Donc vous avez perdu le fil de votre pensée.
Oui, voilà, c'est ça. oui, non, ils sont assez différents. Ils ont un contenu beaucoup plus politique beaucoup moins poétique.
Cela dit, on a pu lire sur les blogs iraniens vous disiez, il existe des blogs politiques, même ouais. Si stricto sensu, tous les blogs d'une certaine façon sont politiques, puisque la vie quotidienne parle de politique, on parle de laïcité, on parle de mixité, donc tout devient politique finalement, même quand on écrit sur des blogs. Mais cela dit, on a pu lire des anecdotes qui montraient que certaines prises de position, par exemple appelant à des pétitions ou à des rassemblements en particulier, je lisais ces iraniennes fans de foot qui s'étaient emparées d'Internet pour organiser clandestinement via des messages sur Internet des manifestations et puis pouvoir se glisser dans les gradins, puisqu'elles sont bien évidemment interdites de stade. façade. Donc on utilise aussi Internet, on utilise aussi les blogs comme espace de contestation possible, oui. Ce qui est pas forcément une contestation directe du pouvoir, mais qui est une façon de s'organiser peut-être dans la société civile, Karim Naïdji.
Oui, pourquoi ? Parce que malheureusement, l'espace de l'interdiction en Iran est très très vaste. Ce n'est pas politique au sens politique du terme, parce que c'est l'aspect social qu'à la suite d'une interdiction générale qui touche la vie quotidienne, malheureusement, on transforme à la politique. Par exemple, lorsque les femmes revendiquent leurs droits, évidemment, il n'y a rien de politique, parce qu'ils ne sont pas contre le pouvoir. Ils ne veulent pas non plus prendre le pouvoir, mais ils revendiquent leurs droits. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la femme iranienne n'a pas le même droit que les hommes. À partir du moment où elle fait cette revendication-là, que le régime réagit et aussi sanctionne cette revendication, à ce moment-là, une revendication plutôt juridico-sociale se transforme à une revendication politique, ça devient politique.
Il y a aussi l'expression tout simplement à la première personne. Est-ce que ça, c'est nouveau ? Est-ce que cette expression à la première personne, par des femmes, mais aussi par des hommes, dans une sphère publique, même si c'est une sphère publique numérique, est-ce que ça aussi, c'est nouveau ? Est-ce que depuis 2001, 2002, cette explosion du blogistan, de la blogosphère iranienne, est-ce que ça traduit quelque chose de la société aussi ?
Oui, parce que vous savez, il y a quand même une histoire là-dessus. Parce qu'à partir du moment où la plupart des journaux indépendants, à la suite en fait de cette ouverture, à la suite de l'élection de Khatami, ont été fermés, il n'y avait pas d'autre voie, d'autre moyen d'expression. Et par conséquent, à un moment donné, vous voyez, il y a une progression massive et une tendance vers l'Internet et vers, en fait, cette possibilité nouvelle.
Kavis Salamatian, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des hommes qui se font passer sur les blogs, hein, qui se font passer pour des femmes pour se faire des amis femmes dans un pays qui a fait de la non-mixité un pilier de la morale publique. Donc on voit bien un jeu de masques aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schizophrénie sociale. C'est-à-dire que dans la vie publique, on s'exprime avec son propre nom. Sur les blogs, on se cache derrière un pseudo, on est anonyme, mais finalement, c'est pour mieux se retrouver soi-même. C'est un peu ça.
Alors, c'est vrai que jusqu'ici, on s'est plutôt focalisé sur les blogs, mais il faut bien prendre en compte qu'une autre des caractéristiques de l'Internet iranien, c'est un énorme trafic de chat. Un trafic très, très important aussi au niveau SMS. Et aussi, il faut bien prendre en compte la présence énorme des Iraniens sur tous les réseaux sociaux. Dans le temps où Orkut était le réseau social le plus connu, la communauté iranienne était la deuxième nationalité après les Brésiliens sur Orkut.
Donc là, on est un peu plus dans l'échange interpersonnel.
Voilà. Aujourd'hui, sur Facebook, les Iraniens ont une présence très, très importante. Alors, pour revenir à cette histoire de jeu de rôle. En fait, les Iraniens ont culturellement ont toujours eu cette capacité à s'adapter et à jouer leur rôle social. Et ça s'est exacerbé, je dirais, durant les 30 dernières années, au fait que finalement chaque personne va avoir à jouer plusieurs types de rôles en fonction de l'endroit où il est. Vous allez, la même personne, vous pouvez la voir rasée de près avec une cravate, le lendemain avec une barbe, pas le lendemain, mais la semaine d'après avec une barbe de 2 jours, parce qu'il doit aller à telle ou telle administration, et la semaine d'après, complètement religieux, parce que c'est l'époque d'un des deuils religieux ou l'une des fêtes religieuses. Je dirais, l'un des problèmes qu'on observe aujourd'hui dans la société iranienne, et surtout chez les jeunes, c'est une espèce de schizophrénie qui fait que finalement, ils n'arrivent pas à se retrouver dans tous les masques qu'ils ont de façon quotidienne sur leur visage. Et les blogs et le chat est en quelque sorte une possibilité de se retrouver soi-même, d'être soi-même à un endroit, au moins d'avoir un miroir, on peut se voir et se voir soi-même.
Kaveh Salamatian, est-ce que l'idée dans les cas d'expression plus ouverte que le Tchad, donc qui se passe entre plusieurs personnes mais de manière fermée, est-ce qu'il y a parfois l'idée que à cet endroit-là, il y a l'expression de la vraie Iran d'une certaine manière, qui n'est pas l'Iran considéré, l'expression aux yeux du monde en tout cas de la vraie Iran, l'idée de se dire j'ai pas envie que mon pays soit uniquement vu au monde à travers les questions de défense, les questions du satellite qui est peut-être lancé, la question du nucléaire.
Clairement, il y a cet aspect-là qui existe. D'ailleurs, je dirais globalement, il y a une grande histoire aussi au niveau de l'Iran. C'est que la population a pris l'habitude du fait de l'histoire, du fait que l'Iran a changé de gouvernant tous les 150 ans parce que c'était un pays où il y avait tous les envahisseurs qui sont passés par ce pays-là, que les gens ont pris l'habitude d'être totalement déconnectés de leurs gouvernants, d'avoir une vie séparée de ce que peuvent dire les gouvernants. Et effectivement, aujourd'hui, dans les chats, dans les blogs, vous allez voir cette déconnexion des gens avec, je dirais, un niveau d'occidentalisation beaucoup plus poussé que ce que vous voyez dans d'autres pays du Moyen-Orient. Tout juste pour vous donner un petit chiffre très simple, il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, l'Iran est un pays où le nombre de personnes qui ont fait des études supérieures est supérieur à la somme de tous les pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire, c'est un pays extrêmement éduqué, avec un niveau d'analphabétisme qui est beaucoup plus bas. Aujourd'hui, 65% des étudiants sont des étudiantes. C'est assez étonnant pour moi qui travaille en Europe et en France et en Angleterre, où on a besoin de faire des réunions pour motiver les jeunes filles à faire des études techniques. Vous allez faire une présentation ou présenter un article dans une université iranienne en informatique. Vous avez un salon avec 150 personnes qui sont là, 130 sont des filles, 20 sont des garçons. Donc, il y a une déconnexion totale de la vision qu'on a de l'extérieur, de ce qui se passe à l'intérieur.
Et on peut voir l'intérieur en se connectant nous-mêmes à cette blogosphère iranienne.
Exactement.
Est-ce que c'est, d'une certaine façon, ce niveau d'éducation dont vous parlez, Kaveh Salamatian, qui pourrait expliquer que les autorités n'arrivent pas à contourner les techniques de contournement, puisque vous disiez que les Iraniens sont très doués à contourner, d'une certaine façon, la répression, mais le contrôle, le filtrage.
Je dirais que le filtrage, aujourd'hui, pour une grande majorité des Iraniens, n'est plus un problème, parce que chacun s'échange ses propres techniques de filtrage et de filtres divers et variés. Grosso modo, le niveau d'éducation iranien est excellent. Il y a eu un article très récemment dans Science qui avait été co-signé par le président de l'université de Stanford et du MIT et je pense d'une autre université américaine qui disait que aujourd'hui l'université de Sharif à Téhéran n'est pas l'une mais est la meilleure université au niveau ingénierie jusqu'au niveau du diplôme d'ingénieur au niveau international.
Donc l'Iran fabrique ses propres hackers en fait.
L'Iran fabrique ses propres hackers, mais je dirais l'Iran exporte ses hackers. Parce qu'il faut bien prendre en compte qu'on a une fuite des cerveaux qui est énorme. Tout juste pour vous donner un petit exemple. Ma génération, moi-même, qui a fait des études en Iran, on est rentré à 20 à l'université en 86, avec des rangs au concours d'entrée à l'université qui, d'ailleurs, est très difficile à rentrer. Parce qu'il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, le taux d'acceptation à l'université est de l'ordre de 1 sur 500, 1 sur 600. 600 participants, il y en a un seul qui rentre dans des domaines d'ingénierie. Moi, l'année où je suis rentré, on était 20. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 25 ans plus tard, sur les 20, 19 ont des doctorats et 18 sont à l'étranger. Sur ma génération, grosso modo, tout le monde, il y a très peu de personnes qui sont restées en Iran.
Justement, en parlant de ces questions d'Iran et d'Iraniens exilés qui sont sur le réseau, qui s'expriment et évidemment s'expriment aux yeux de ceux qui sont toujours dans le pays, il y a la question savoir si finalement, aujourd'hui, les natifs digitaux, les jeunes qui sont nés avec
60% avec de la population a moins de 25 ans.
Oui, l'essentiel de la population n'a même pas connu la révolution iranienne de 79, n'était pas vivante à ce moment-là, en tout cas. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le réseau va être le lieu, ou est déjà le lieu, d'une nouvelle génération de dissidents pour qui c'est normal, tout simplement, de s'exprimer là, dont les parents étaient exilés et qui, eux, reprennent finalement ce rôle-là sur le réseau Karim Naïdji.
Oui, c'est valable et pour les enfants des réfugiés, des exilés dans divers pays du monde, et valable pour la nouvelle génération sur place. Par exemple, les 4 condamnés hier, ce sont des jeunes moins de 30 ans. Ça veut dire où ils n'étaient même pas nés en 79 lorsque la République islamique est née, où il avait 3-4 ans. Justement, cette génération s'intéresse beaucoup à toutes les voies, à toutes les possibilités de s'exprimer dans un pays où la liberté d'expression, comme toutes les libertés, malheureusement, est conditionnée par la conformité avec des règles de la charia définies par le guide suprême et ses subalternes dans différents secteurs de la vie quotidienne.
Hamdam Mostafavi, est-ce que d'une certaine façon la deuxième révolution donc viendra par le réseau ?
Je ne sais pas si c'est vraiment une deuxième révolution, parce qu'il faut quand même savoir que ces jeunes, même si ces jeunes sont pas très intéressés par la politique en tant que telle, c'est-à-dire que c'est pas... Ils ne votent pas énormément et pour eux, la politique en Iran, ça n'a pas vraiment de sens. Donc après, ils ont des pensées politiques par le simple fait qu'ils écrivent et qu'ils veulent autre chose, qu'ils demandent autre chose, une autre vie. Mais est-ce que oui, c'est une forme de révolution, mais est-ce qu'elle aura des conséquences réelles dans la vie politique ? Je ne suis pas sûre.
Qu'avait Salamatian sur cette question ?
Je pense que... Aujourd'hui, quand on parle avec la plupart des gens en Iran, le mot révolution est un mot qui n'est pas très bien vu. C'est-à-dire, un certain nombre de personnes ont plutôt tendance à dire on a fait une révolution et on en voit le résultat. Mais si on veut dire, si je tourne la question en disant est-ce que l'Internet sera aujourd'hui et dans le futur un lieu d'expression et un lieu où les changements et la réforme va prendre source, effectivement, il est clair que l'arrivée de l'Internet a eu un effet très très important au niveau de la réforme et je pense que ce sera un des catalyseurs d'une réforme possible.
Karim Naïdji, est-ce que c'est pas ça au fond qui fait peur au pouvoir en place ? Et est-ce que c'est pas ça au fond qui explique tant de répression, tant de volonté de contrôler ce qui se passe sur Internet ?
Ce cocktail, connexion
bien
et jeunesse.
Bien sûr, à partir du moment où il essaye de fermer toutes les voies d'expression, je vous ai dit la fermeture de la presse écrite. Maintenant, évidemment, à partir du moment où il se rend compte qu'il y a d'autres voies, d'autres possibilités de s'exprimer, à ce moment-là, malheureusement, il y a la politique répressive qui prime et qui donne des résultats assez, assez violents.
La politique traditionnelle qui prend aussi le réseau en main, parce qu'on disait, le président Ahmadinejad a son blog depuis 2006. En même temps, il est très peu, je crois qu'il est quasiment laissé à l'abandon en ce moment, ce blog.
Oui.
C'est de la communication traditionnelle qu'on retrouve finalement un peu chez nous. C'est la politique traditionnelle qui se saisit du réseau.
Oui, mais son blog est très peu actualisé, enfin, si je me souviens bien. Et si on regarde, ce qui est drôle dans le blog d'Ahmadinejad, c'est surtout les commentaires. Des gens, et en fait, c'est des faux commentaires parce que c'est les mêmes depuis 2 ans et qu'il n'y a absolument rien qu'à changer. Mais oui, on voit surtout, on parlait des femmes tout à l'heure. Il y a des blogs intéressants qui sont écrits par des femmes de tendance religieuse et qui, elles, ne vont pas revendiquer le droit des femmes, parce qu'on nous, on appelle le droit des femmes, mais c'est là-bas, elle appellera le droit des femmes, le fait de pouvoir mener une vie en conformité avec la religion. Donc, on a des femmes influentes. Entre guillemets, les femmes du régime qui vont faire des blogs pour exprimer ce genre d'opinion.
Oui, et l'épouse du porte-parole du gouvernement, on trouve ça sur le blog des blogs dont vous vous occupez sur Corée International, vous en parliez, Fatemeh Rajabi, qui tient un blog qui a quand même été suspendu.
Oui, parce que, bon, alors après, est-ce que...
Rien n'est simple, à chaque fois qu'on parle de la politique en Iran.
Il ne faut pas partir dans les théories du complot, mais oui, elle est suspendue, ça lui donne aussi une forme de légitimité. Après, c'est plus facile de discuter avec les autres blogueurs. C'est vraiment une histoire d'image.
Surtout le rapport de force.
Karim Naidji.
Surtout le rapport de force, parce que il faut voir que bon, qui était attaqué par cette dame, étant donné qu'il y a un rapport de force assez violent en Iran actuel, et en Iran de toute façon depuis l'arrivée au pouvoir de ce régime, c'est la raison pour laquelle évidemment l'aile qui a davantage d'influence prime et sanctionne l'autre adversaire.
Après, c'est des batailles politiques, puisque les conservateurs se font la guerre entre eux, donc forcément, ils peuvent s'y
Des récupérations dans tous les sens, quoi.
Et qui dépassent évidemment la question du réseau.
Bien sûr.
Une citation pour terminer, issue d'un article du New York Times qui date de quelques années, mais qui fait évidemment écho à cette conversation ce matin. L'introduction du télégraphe en Iran dans les premières années du XXe siècle a contribué au déclenchement de la première révolution contre le régime despotique de la dynastie Qajar. Celle du téléphone et des cassettes dans les années 70 a aidé l'ayatollah Khomeini à lancer sa révolution contre le Shah. Aujourd'hui, le réseau Internet et la télévision par satellite sont arrivés en Iran, offrant de nouveaux appétits à la troisième génération d'Iraniens. Voilà, merci à vous.
Merci à tous les trois. Kaveh Salamatian, maître de conférence à l'Université Pierre et Marie Curie, professeur à l'Université de Lancaster en informatique et télécommunications. Merci à vous, Hamdam Mostafavi, journaliste responsable du blog des blogs sur le site de Courrier International. Et merci Karim Naidji, vous êtes président de la Ligue iranienne de défense des droits de l'homme et vice-président de la FIDH.
Deuxième partie de Place de la Toile. Dans une dizaine de jours, le 17 février exactement, le projet de loi Création et Internet, ou projet de loi Hadopi, repasse devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et c'est donc le retour qui était promis de ce projet de loi qui avait déjà fait beaucoup de bruit dans la première partie de son parcours législatif l'année dernière. Le projet de loi qui comprend, on le rappelle, la création donc de cette Hadopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, et le principe de riposte graduée qui sera appliqué donc contrevenant aux téléchargeurs illégaux, une riposte qui pourra aller d'un simple mail d'alerte envoyé au téléchargeur jusqu'à la coupure de l'accès au réseau. Voilà l'idée de ce projet de loi. Les débats ont déjà été nombreux l'année dernière. La loi devait être appliquée à partir du mois de janvier, mais le calendrier législatif a pris du retard, vous savez ce que c'est. Puis il y a eu la lecture en octobre devant le Sénat qui avait aussi donné lieu à des débats. Nicolas Sarkozy, le président de la République, en a parlé de cette loi au début de la semaine. Il a promis que la loi serait votée au mois de mars, donc le mois prochain, avec l'objectif suivant, dit-il, faire de l'Internet un fantastique lieu de création et d'échange, et non une jungle sauvage où il serait permis de piller les œuvres des créateurs. Et dans le même temps, il y a pas mal de réflexions quand même qui sont lancées à côté pour tenter de rendre, j'allais dire, raccord la logique du réseau, la logique d'échange et de partage qui va avec le réseau, et la question de la rémunération quand même de l'artiste, la reconnaissance de l'auteur. Trouvons une solution sans se référer aux modèles anciens de ces questions-là, voilà l'idée. Et c'est justement le propos d'un livre qui paraît aux éditions In Libro Veritas, un livre intitulé Internet et création, comment reconnaître les échanges sur Internet en finançant la création? Voilà une belle question posée donc par l'auteur de ce livre, Philippe Aigrin. Philippe Aigrin, spécialiste de ces questions de droit intellectuel et qui est avec nous ce matin. Bonjour Philippe Aigrin.
Bonjour et merci de votre invitation.
Mais de rien, et je rappelle que les auditeurs qui sont sur Twitter ou les autres peuvent poser des questions via Twitter pendant que l'on discute de ce livre, donc Internet et création.
Philippe Aigrin, Thomas rappelait le contexte dans lequel s'inscrit votre livre d'une certaine façon. Alors, entre l'échec de la licence globale en 2005 et l'adoption peut-être à venir de la loi Création et Internet, vous vous dites clairement cette loi Création et Internet n'est pas appropriée au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Effectivement, vous avez raison de rappeler l'origine en 2005 de beaucoup de choses, au sens où la loi Hadopi, c'est peut-être le dixième effort législatif, réglementaire, politique de mettre un terme au partage non autorisé d'œuvres numériques sur Internet, d'installer sur Internet une capacité de contrôle des copies des œuvres de même nature que celle qui existe relativement naturellement dans l'espace des œuvres sur support physique. Donc dès 2005, et même avant, il y a eu un certain nombre de gens qui avaient dit le propos a changé. Mais à l'époque, essentiellement, l'argument qui était avancé, c'était celui de la non-possibilité. Alors c'est un argument tout à fait solide. Je pense que la discussion passionnante que nous venons d'écouter, pour ce qui me concerne, est très instructive du point de vue de la capacité dans un pays démocratique à contrôler les échanges entre individus. Donc cet argument de l'impossibilité était évidemment très puissant. Mais en même temps, il laissait entièrement intacte la question de qu'est-ce qui est désirable.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut quand même construire ? Parce que vous dites dans ce livre Internet et création, donc chez In Libro Veritas, que le web, le réseau, c'est un écosystème à part. C'est pas un tuyau en plus à côté des autres, et que la logique économique, commerciale, de redistribution des droits qui existent dans le monde physique, elle ne peut pas par nature être dupliquée dans cet écosystème à part.
Alors, non seulement elle ne peut pas, ou plus exactement, elle ne pourrait l'être qu'en transformant en quelque chose de radicalement différent de ce qu'il est, et le coût à payer pour ça en termes d'atteinte aux libertés serait considérable. Alors, je ne mélange pas avec d'autres formes d'atteinte aux libertés ailleurs, comme celles que nous venons de voir décrites, qui sont beaucoup plus graves, mais néanmoins, on voit une tendance à aller toujours plus loin dans ces atteintes aux libertés, et que au service d'un projet que j'ai voulu interroger dans son but même. Donc l'élément le plus original d'Internet et création par rapport à d'autres défenses de mécanismes similaires, c'est-à-dire de mécanismes où on légalise les échanges d'œuvres numériques entre individus à condition qu'il n'y ait pas de visée commerciale sur Internet, en échange du paiement d'une contribution qui sert à financer et rémunérer la création. Il y a eu des tas de propositions de ce type-là.
C'est ce que vous appelez le financement mutualisé.
Bon, il y en a eu leurs mécanismes juridiques, leurs mécanismes techniques, leurs portes et en termes de médias, tout ça sont différentes, mais c'est sur la table depuis 2003.
Et pourquoi ça n'avance pas ?
Alors, la raison pour laquelle ça n'avance pas, elle est double. Elle est d'une part, ça met du temps à mûrir les bonnes formes de ces propositions. Quand je dis bonnes formes, je veux dire à la fois au niveau de leurs effets prévisibles, mais aussi au niveau de leur acceptabilité politique. Bon. Donc un des travaux que j'ai fait dans Internet et création, c'est d'essayer justement de mettre les mains dans le cambouis des
détails. Vous donnez des chiffres, vous parlez d'une éventuelle redevance de 2 à 7 euros en fonction de ce qui irait avec la chaîne à l'ordinateur. Et vous parlez chiffres directement.
Avec l'abonnement Internet.
Avec l'abonnement Internet, pardon. Mais en fait, on revient sur une question qui a été évoquée sous un autre nom, justement, en 2005, qui s'appelait la licence globale.
Bien sûr, la licence globale était explicitement, pour moi, le point de départ. C'est-à-dire que j'avais tiré, comme un certain nombre d'autres gens, un enseignement assez différent de ce qui s'était passé en 2005. C'est-à-dire, vous parliez d'échec de la licence globale. Moi, je considère ce qui s'est passé en 2005 comme une indication très forte de la pertinence de la proposition, mais en même temps de son immaturité.
Peut-être faisons une petite parenthèse pédagogique, Philippe Aigrin, pendant que KV Salamatian est insupportable. Rappelez-nous le principe de la licence globale. La redevance, qui paye quoi ? C'est un forfait, mais je vous laisse.
Moi, j'ai à dessein donné un nom différent. Maintenant, j'appelle ça la contribution créative.
Mais
pour marquer les différences, mais il y a des points communs. Les points communs, c'est les abonnés à Internet au débit acquittent une redevance forfaitaire mensuelle ou en général, c'est comme ça qu'on la présente. Vous avez mentionné le chiffre de 2 à 7 euros, mais c'est effectivement la fourchette qui est indiquée, enfin de 3 à 7 euros qui est indiquée dans mon livre. Moi, personnellement, je pense que la redevance adaptée au financement du développement aussi de la création dans la sphère numérique est plutôt de l'ordre de 5 à 7 euros par mois. Donc, je ne veux pas faire de la démagogie sur le bon marché. C'est des ordres de grandeur.
Et cette redevance sert à alimenter un fonds pour la création.
Alors d'abord, en 2005, on avait proposé que ça soit optionnel de la payer. Et ça, ça avait considérablement affaibli la crédibilité de la mesure et son acceptabilité. Parce qu'on ne savait pas combien elle allait rapporter.
Oui, on ne sait pas, on peut pas prévoir grand-chose.
On ne pouvait pas prévoir le montant qui serait utilisable. Et en plus, ça laissait planer le risque que puisque des gens ne la payaient pas, alors pour les traquer, eux, il faudrait faire toutes les choses dont on souhaiterait bien se débarrasser, de type mesures techniques de protection, filtrage obligatoire, surveillance par des acteurs privés. Toutes ces choses-là risquaient de continuer à exister malgré la mise en place de la licence globale.
Donc vous dites qu'il faut que cette redevance soit obligatoire. Déjà, premier point.
Alors, je le dis et j'essaie de le justifier. J'essaie de le justifier au sens où l'argument qui a été opposé au caractère obligatoire, c'était quelque chose du genre « au moins, je ne télécharge pas ». Donc pourquoi je paierais ? Bon. Alors d'abord, c'est un argument qui est toujours à considérer avec des pincettes. Hein. On peut ne pas avoir d'enfants et vouloir quand même qu'il y ait un système éducatif. On peut, bon, enfin, il y a des tas de...
Principe de l'impôt.
Mais indépendamment de ça, c'est une erreur de projeter la situation actuelle où on parle de téléchargement et pas partage ou pas mise à disposition. Et d'autre part, tout ça se déroule dans une pseudo-clandestinité et sur une situation où ça deviendrait une activité légitime. Si ça devient une activité légitime, la capacité de partage entre individus des œuvres numériques sera telle que ça sera utilisé par tout le monde, y compris sans le savoir d'ailleurs.
C'est ça, c'est la dimension supplémentaire, l'ampleur supplémentaire de votre livre Internet et création, Philippe Aigrin, c'est justement de dire, si on sort le téléchargement de son côté clandestin, si on arrête d'ailleurs de parler de téléchargement, comme vous dites, mais qu'on parle de partage, la logique du numérique adaptée à la question de l'œuvre va enrichir encore l'œuvre, l'artistique, la culture.
Oui, alors je vous entendais dire que le président de notre République souhaitait faire d'Internet un grand lieu de création et d'échange.
Et non une jungle
sauvage. En réalité, je pense que la ministre de la Culture a un peu vendu la mèche dans l'exposé des motifs du projet de loi quand elle a dit si on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire si on éradique le piratage, Internet pourra devenir un merveilleux canal de distribution des œuvres culturelles.
Et alors vous dites que c'est une question aussi de production, de création en soi-même. La question du partage, c'est la question aussi de croiser les œuvres, l'hybridation. C'est ça aussi la culture, c'est croiser les influences.
Ce qui est en jeu, ce sont toutes les activités intermédiaires. C'est-à-dire, la situation de réception d'une œuvre, elle va continuer à exister. Elle est une part inhérente et importante de la culture. La situation de production professionnelle et de distribution industrielle, elle continuera à exister aussi. Mais c'est tout ce qu'il y a entre les deux qui compte. Et le problème, c'est qu'il y a un tout petit nombre de modèles commerciaux qui ne peuvent vivre que dans cette distinction forte entre la situation de production et la situation de réception, alors qu'il y a tout un écosystème de modèles économiques que j'ai essayé de décrire et dont j'ai essayé de montrer qu'il ne serait pas perturbé par la mise en place d'une contribution créative.
Philippe Aigrin, est-ce que ce livre, vous allez le prendre avec vous et l'emmener pour le diffuser auprès de tous les parlementaires et qu'ils puissent s'emparer de ce débat public avant de voter la loi ?
Il y a un côté manuel qui peut aussi...
Oui, alors, l'envoi des exemplaires physiques aux parlementaires, ou du moins, pas tous d'entre eux, mais à la plupart de ceux qui s'intéressent à ces sujets, y compris au niveau européen, c'est fait. Le service après-vente, c'est encore à faire, mais j'espère ne pas le faire tout seul. Hein. J'espère avoir un peu d'aide pour cela.
À suivre donc. Merci Philippe Aigrin.
Et on peut retrouver donc ce livre en téléchargement sur votre site, sur le site de l'éditeur aussi, et on renvoie sur votre blog, votre site paigrin.debatpublic.net. Une question Twitter qui arrive d'Olivier Aubert. Question pour l'ami Aigrin, la création principale n'est-elle pas celle des contributeurs ?
Bien sûr, enfin, j'utilise beaucoup le mot contributeur à la création, mais reste à définir qu'il y a des contributions très variées. Je ne sais pas ce que l'ami Olivier veut dire quand il dit ça.
Vous suivrez votre discussion peut-être sur le net, puisque de toute façon, nous devons passer à la chronique de Milad Douéhi. Bonjour Milad.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver à ce micro pour la chronique du mois de février. Ce matin, les ingénieurs du futur.
Oui, je voudrais parler de cette nouvelle université qui est annoncée par Eckhard Weil. Vous savez, l'utopie et l'innovation ont toujours joué un rôle déterminant dans le développement et l'adoption de la culture numérique. Les technologies de l'information ont ainsi mis en place une nouvelle réalité, un nouvel urbanisme virtuel. Et ce virtuel vécu invite aujourd'hui des promesses de nouvelles inventions qui vont bien au-delà de la communication et qui veulent s'adresser aux grands problèmes de notre monde, comme la pauvreté et la maladie. Ainsi, on vient d'annoncer il y a 2 jours la fondation d'une nouvelle université aux États-Unis, l'université Singularity, et dont la mission principale sera d'essayer d'abriter et d'encourager la recherche en biotechnologie, en nanotechnologie et en cybernétique afin de modifier la réalité de l'humain, voire du vivant. La singularité est un terme qui désigne une profession de foi optimiste, ancrée dans l'inévitabilité d'une convergence entre l'homme et la machine, entre le virtuel et l'intelligent, et qui aura le pouvoir d'augmenter et d'améliorer et le corps et l'intelligent humain. C'est un mélange de réalisme technologique et d'utopisme proche de la science-fiction qui anime ce mouvement d'ingénieurs philosophes qui veut changer le monde. La singularité est proche aussi des mouvances transhumanistes en quête d'un dépassement et de la finitude et de la mortalité humaine. Sans entrer dans les débats byzantins autour des questions éthiques soulevées par ces orientations, ce qui nous intéresse ici, ce sont les liens entre ces sciences de l'intelligent avec le numérique. C'est surtout, me semble-t-il, à cause de l'importance croissante du virtuel comme interface et extension de la réalité sociale. La sociabilité numérique, avec sa décentralisation, son caractère fragmentaire, tout comme son imaginaire, invite des augmentations et des extensions. Un avatar, par exemple, n'est plus simplement une représentation, un tenant-lieu. Il a aussi le potentiel d'être un autre soi-même dans un monde virtuel habité par des intelligences semi-autonomes. L'avatar est en quelque sorte une incarnation numérique. Le virtuel n'est plus un autre espace humain, il est en train de devenir notre espace habitable. C'est en quelque sorte une nouvelle religion de l'intelligence qui s'annonce avec cette nouvelle université. Le dépassement de la finitude commence par l'extension dans le virtuel, dans la modification du corps grâce à la machine. La convergence entre les deux, selon les adeptes de la singularité, aura aussi le pouvoir de répondre aux grands besoins de la planète. Et si je résume les propos de Kurzweil, les nanotechnologies nous permettront de fabriquer presque n'importe quel matériel sur demande. La biotechnologie résoudra les maladies du corps et les intelligences artificielles, ces anges du virtuel, surmonteront les obstacles séparant notre réalité physique et le virtuel tel qu'on les peut les percevoir grâce à la culture numérique. Ces ingénieurs du futur nous invitent aussi à réfléchir à la mythologie des sciences actuelles, à examiner leur densité historique et surtout, à mon avis, à interroger leur potentiel de redéfinition de l'environnement humain dans toute sa diversité. Les modèles émergents de l'humain sont ainsi les produits de notre société et de nos savoirs, et ils sont en train de tracer les premières lignes du nouveau visage de l'homme de l'ère future. Reste à leur rappeler que ce savoir a aussi le pouvoir de créer de nouvelles fractures, de diviser autant que d'unir, et de donner lieu à de nouvelles croyances et à de nouvelles superstitions. Rappelons, pour terminer, les mots du poète. C'est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L'existence est ailleurs.
Merci Miladouille, à la semaine prochaine.
Place de la Toile, c'est terminé pour ce matin. Émission préparée et coordonnée par Yael Mandelbaum, à la prise de son Emmanuel Morse d'Incan, réalisation Doria Zénine. Merci à notre stagiaire Laetitia Strauch et rendez-vous donc sur le site de Place de la Toile sur franceculture.com.
Et rendez-vous lundi à 11h pour Questions d'époque.